toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Il n'est plus nécessaire de le dire, les cinémas sont fermés. Plus de miettes de pop-corn, ni d'esquimaux glacés, plus de baisers, ni de bandes-annonces dégustées dans le noir. Selon un sondage récent, la fermeture des salles obscures figure parmi les choses qui manquent le plus aux Français. Et tout porte à croire que la disparition de la séance de cinéma, ce lieu privilégié où chacun s'invente ses rituels, laissera une trace durable chez les jeunes et les moins jeunes du monde entier. Alors, au-delà de la fermeture des salles, dans la plupart des pays du monde, c'est toute une industrie qui se trouve à l'arrêt. Des producteurs fragilisés aux commissions qui marchent au ralenti, des tournages aux scénarios amputés de baisers et d'étreintes, sans oublier les festivals qui naviguent à vue. Pas d'édition 2020 pour le Festival de Cannes, mais peut-être, espérons-le, une édition 2021 annoncée pour le mois de juillet. En septembre dernier, une Mostra et un festival de Saint-Sébastien masqués. Et puis le couperet est tombé depuis une liste impressionnante de festivals virtuels, de Belfort à Angers, de Nantes à Sundance. Et voilà maintenant le festival de Berlin, l'un des rendez-vous les plus importants de l'année. Voilà la Berlinale réduite à une peau de chagrin virtuelle. Cette 71e édition se déroulera cette année du 1er au 5 mars. Et il en sera bien évidemment beaucoup question dans cette émission avec nos trois invités. En plateau avec nous, Nicolas Brigaud-Robert. Vous êtes exportateur de films, directeur et cofondateur de la société Playtime, ex-film distribution. Bonjour.
Bonjour.
Et Thomas Gastaldi, programmateur de la société de distribution Shellac, connu pour son riche catalogue d'auteurs, de Miguel Gomez à Petro Marcello, en passant par Christy Pouillou ou Amine Naïfé. Bonjour.
Bonjour.
Et vous, Gilles Renoir, vous êtes le directeur adjoint d'Unifrance, l'organisme qui accompagne le cinéma français à l'international. Et vous êtes au téléphone avec nous depuis la Bretagne. Bonjour.
Bonjour.
Gilles, vous avez coordonné un livre collectif, 25 ans de cinéma français à l'étranger, paru aux éditions Hémisphère. J'ai envie de vous dire, drôle d'année pour fêter un jubilé. Alors, vous qui passez beaucoup de temps dans les avions à accompagner les films français, les cinéastes et les acteurs dans les festivals, comment avez-vous vécu cette année si particulière, cette année sans jet lag?
Ben voilà, c'était sans jet lag. Donc, pour quelqu'un qui s'occupe à la fois du cinéma et du cinéma à l'étranger, c'était un peu la double peine parce que donc les salles d'une part sont fermées, elles sont fermées en France, mais elles ont été fermées partout dans le monde de manière un peu différente selon les pays évidemment. Et puis donc plus de voyage non plus parce que toutes les impossibilités de déplacer, donc plus de marché non plus, plus de rencontres avec les distributeurs étrangers, plus de rencontres avec les directeurs de festivals dont on avait parlé. Donc une année à l'arrêt, mais qui s'est transformée tout au long de l'année quand même avec des zooms, des films qu'on voyait sur petit écran, alors qu'avant on les voyait sur les grands écrans, et puis des rencontres virtuelles et aussi de la promotion virtuelle. On travaille beaucoup à Unifrance à faire connaître les acteurs, les réalisateurs, les films français. Cette année, en fait, on a continué quand même à faire rencontrer les acteurs français avec les journalistes étrangers. Alors, cette fois, on a organisé ça à Paris avec des rencontres virtuelles.
Nicolas Brigaud-Robert, cette année, tous les grands marchés se sont tenus en ligne. Ça a commencé par le Festival de Cannes et puis ainsi de suite, Toronto, Sundance, aujourd'hui Berlin. J'imagine que ça n'a rien à voir, faire un marché via Zoom et être dans un véritable marché avec les gens qui viennent, éventuellement toquer à la porte en disant bonjour, est-ce qu'on peut se prendre un rendez-vous, boire un café cette semaine ?
Non, rien à voir, rien à voir. Non seulement pas de jet lag, comme le disait Gilles Renoir, mais aussi ce métier que nous faisons, qui est de présenter des films à travers le monde pour essayer de convaincre des distributeurs locaux de les importer dans leur pays. C'est un métier qui se fait au fil de l'année à travers, vous l'avez dit, des rencontres, des rendez-vous, des festivals. On crée le désir, on fait apparaître et émerger des talents. On les fait reconnaître par la presse, voire par le public, et c'est dans ce cadre-là que d'habitude se font les transactions, puisqu'il s'agit bien donc de transactions commerciales où vous avez un acheteur et un vendeur, nous étant du côté de la production et de la vente. Eh bien, en l'absence de ces espaces physiques, on les a substitués par, vous l'avez dit, des espaces virtuels. En sommes-nous satisfaits ? Certainement pas.
Il y a un côté festif aussi dans un festival. Et puis, j'imagine que la vente, c'est très important d'être dans la même pièce. Il y a beaucoup d'autres choses que les mots qui passent.
Alors, il y a bien évidemment, vous avez raison de le souligner, il y a autre chose que des mots, puisque c'est l'expérience collective aussi. Les acheteurs sont aussi des spectateurs, c'est-à-dire ils voient les films dans des conditions de cinéma, dans une salle, avec d'autres acheteurs, leurs concurrents. L'émulation se fait à ce moment-là. La peur de perdre aussi, de perdre l'avantage, de perdre un film qui sera le succès de demain, qu'ils découvrent au même moment que les autres. Et ça, c'est des choses, vous imaginez bien, qu'à distance, en zoom, sans réunir l'ensemble de la profession dans un même lieu, dans un même temps, c'est un désavantage, pas seulement pour nous, producteurs ou exportateurs, mais bien évidemment pour les acheteurs eux-mêmes, qui doutent. C'est pas facile de choisir un film par définition unique, prototypique, tout seul dans sa cuisine, face à un écran, alors que ce type de décision se prend normalement entouré d'un certain nombre de d'étayages que sont la presse, le public, ce qu'on appelle le buzz dans un marché, c'est ça qui emporte la décision. Eh bien, nos acheteurs se retrouvent seuls à décider. Et je crois que c'est pas facile pour eux, comme c'est pas facile pour nous.
Et tous les distributeurs du monde entier, les Français étant peut-être, vous me contredirez sans doute Thomas Gastaldi, mais les Français sont un peu privilégiés dans la mesure où les distributeurs ont des aides de l'État. C'est pas la même situation dans tous les pays du monde. Qu'est-ce qu'ils vous disent vos collègues du monde entier? Parce que pour rebondir sur ce que disait Nicolas Brigaud-Robert, pour être un distributeur étranger qui achète un film, bah c'est un peu compliqué si on en a déjà 10 ou 15 ou 20 sur ses étagères.
Nous, chez Shellac, on a une politique un peu différente. On est très souvent au début de projet, puisqu'on est aussi producteur. Et donc, on accompagne à peu près 80% de notre line-up du début à la fin d'un processus. Donc, on est peut-être amené à réfléchir un peu différemment. On a été confronté, comme tous, à un arrêt très brutal en mars 2020, sur lequel je pense que le cinéma est l'un des endroits où on a le plus vite réfléchi à trouver des rebonds. Et effectivement, mis à part les grandes fêtes et les grandes réunions physiques dont on a du mal à recouvrer et on a du mal à ressentir cette sensation de se retrouver dans le milieu pour des moments professionnels et aussi pour imaginer des moments à venir avec les spectateurs, on cherche d'autres moyens de réfléchir avec les réalisateurs, avec les créateurs, parce que pendant ce temps, il y a tout un tas de films qui a continué à être tourné. Beaucoup de tournages, c'est un des endroits dans lequel il n'y a pas eu quasi d'arrêt net. On a continué quand même à travailler. Donc les œuvres sont là, les œuvres ont continué à être là. Maintenant, la question est, avec toutes les incertitudes, comment on arrive à les prendre, à les embrasser, à aimer des films, à les acheter. On est aussi dans de l'acquisition et on fait un petit peu de vente aussi du line-up, mais... On réfléchit à toutes ces questions-là sur comment amener au mieux, dès qu'on aura une fenêtre, dès qu'on aura un calendrier, on est tous à guetter un calendrier un peu viable pour pouvoir trouver la meilleure manière, film par film, pour les accompagner au mieux.
D'autres manières de réfléchir, Thomas Gastaldi, ça pourrait être la création du club Shellac, qui est une idée que Shellac avait depuis très très longtemps, bien avant la pandémie.
J'ai rencontré Thomas Ardenau.
Est-ce qu'on peut raconter en deux mots ce que c'est le Club Shellac?
Le Club Shellac, c'est une plateforme, c'est un abonnement VOD, comme on peut être abonné à Netflix ou à Disney+. Mais c'est un abonnement au Club Shellac, donc on n'est effectivement pas du tout sur la même offre. On essaie de passer en dessous des radars, c'est-à-dire qu'on a une offre qui est en dessous de 5 euros. On commence à appeler ça une plateforme de complément, qui pourrait être comme ça en complément de grandes offres. Et donc on propose 12 films par mois et on renouvelle par un geste de programmation toutes les semaines avec 3 nouveautés, 3 nouveaux films. Donc on associe 3
donc
films.
C'est comme un ciné-club d'arrêt.
C'est un peu l'esprit qu'on veut y donner. Et on nous pose la question de savoir, vous avez été opportuniste, vous essayez dans la dans la conjoncture de créer une plateforme digitale. En fait, il y a très longtemps qu'on essaie de trouver la meilleure des manières d'animer notre catalogue et d'animer de nouvelles acquisitions. Et on trouve là, dans cette offre et cette plateforme, une façon de programmer régulièrement des films qui sont du coup à découvrir, parce que on s'est aperçu que dans la programmation, du coup, il y a toute une forme d'inédit qu'on peut réintégrer là, des films qui ont de plus en plus de mal d'arriver dans les salles et qui, ici, trouvent une première fenêtre en France pour pouvoir les découvrir.
Alors, les salles et les plateformes, et la façon aussi de faire découvrir les films et éventuellement naître des auteurs, on en reparlera dans l'émission. Mais pour l'instant, une petite pause avec Ariane Moffa. C'est le premier extrait de son nouvel album qui arrivera au printemps. Et c'est un choix de notre réalisateur, Jérémy Bessé.
Caresser le côté tranchant, la glace sèche.
Sur RFI dans tous les cinémas du monde avec nos trois invités, Thomas Gastaldi, Gilles Renoir et Nicolas Brigaud-Robert, pour parler de cette Berlinale 2021 si particulière. Alors justement, on va écouter une cinéaste que vous connaissez bien, Nicolas Brigaud-Robert, puisque c'est Johanna Agyi-Thomas, dont le nouveau film, co-réalisé comme toujours avec Khalil Jorej, est en compétition au Festival de Berlin cette année. Ça s'appelle Memory Box.
Déjà, c'est la première fois qu'on va à Berlin, qu'un de nos films est sélectionné à Berlin, en compétition en plus, et ce côté virtuel était assez étrange. Maintenant, le festival est en deux temps. Donc, il y a un premier temps où il y a le marché, la compétition, dans un deuxième temps en juin, et on l'espère très fort, on pourra aller rencontrer le public berlinois et peut-être avec nos équipes présenter les films et que ça se matérialise un peu, parce que c'est la grosse difficulté. Il y a un petit côté, on est très heureux, bien sûr, et honoré d'être dans la compétition de Berlin, mais c'est aussi un petit peu étrange comme moment, c'est-à-dire que le moment où le film passera, le 1er, le 2 mars, je ne sais pas, nous, on vivra une vie normale. C'est assez étrange.
Et vous serez à Paris.
Exactement, on sera à Paris, nos équipes, les acteurs n'ont pas encore vu le film, donc c'est le moment où on a le plus envie de partager et on peut pas du tout le faire avec les gens qui ont le plus contribué à ce film.
Il y a quelque chose qui manque.
Ah oui, bien sûr, il y a quelque chose qui manque profondément, c'est le partage, mais c'est ce qu'on est en train de vivre depuis bientôt un an. On partage plus, en fait, chacun d'entre nous. Le partage est devenu extrêmement limité, que ce soit, nous, on est aussi artistes, on a fait des expositions sans les voir, sans rencontrer aucun public. C'est très étrange comme moment. Et puis, c'est le moment de la première, justement. C'est le moment où, tout d'un coup, ce film, il sort, on le voit, il rencontre les gens. Là, bon, c'est pas le cas. Donc, on a tourné ce film en 2019, en mars, avril 2019. On l'a monté longtemps. Il a été retardé par le confinement, la révolution au Liban, enfin, des tas de choses. Et là, aujourd'hui, on a tellement hâte de le partager. Et voilà, il faut attendre. Mais on n'a pas tellement le choix. Je pense que c'était aussi très important de soutenir les gens qui travaillent et qui doivent continuer à travailler, comme les sélectionneurs de Berlin, toute l'équipe de Berlin, toutes les équipes de festivals, les producteurs, les vendeurs, tout ça. C'est-à-dire que autant on est, nous, en tant que réalisateurs, Khalil et moi, on est profondément... frustré, disons, mais on est en même temps heureux que le film puisse avoir une vie. Il a trouvé une maison, parce que c'est aussi ça la peur qu'on a aujourd'hui, c'est où vont aller les films, comment ils vont être montrés, tous ces films qu'on a portés, qu'est-ce qui va leur arriver, quel va être leur destin. Je pense que chaque réalisateur aujourd'hui qui a un film, qui l'a tourné et fini, est dans les mêmes angoisses. Et comment est-ce que on sent qu'il y a une grande accélération et que le cinéma, enfin la façon dont la monstration va profondément changer. Et nous, on aimait beaucoup comment c'était, c'est-à-dire les festivals, les salles de cinéma, le partage, les discussions après avec le public. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé aussi avec Khalid dans la salle Métropolis au Liban. Donc ça nous tient énormément à cœur. Ça,
qui est une salle que vous avez créée.
Voilà, avec Anya Mroué qui est la directrice et plusieurs autres collègues et qu'on a essayé de faire vivre pendant des années. Et on sait combien cette cinéphilie partagée est importante, donc on veut la garder. Et le festival est un très bon lieu pour le faire, dont on est privé. Mais moi, je garde espoir, je me dis en juin, les choses vont se passer. On va retrouver, je suis un peu, ou soit dans un déni, soit je suis très positive parce que je n'ai pas ce luxe du désespoir et donc je me dis... On va partager.
Oui, on va partager, hein, dit Johanna Adji Thomas, qui parle du mois de juin, puisqu'effectivement, le Festival de Berlin a annoncé qu'il se déroulerait du 1er au 5 mars en virtuel et qu'en juin, si et seulement si les conditions sanitaires le permettent, il y aura un vrai festival avec des avant-premières dans des salles de cinéma. Mais moi, j'aime beaucoup cette expression en fait de Johanna Adji Thomas qui dit « trouver une maison ». Que mon film trouve une maison. Comment vous, Nicolas Brigaud-Robert, donc qui est le film de Johanna Adji Thomas et Khalil Jorej fait partie de votre line-up.
C'était un film sur lequel on a été totalement séduit par le scénario il y a déjà, et Johanna le disait, ça a pris du temps, donc on était il y a 3 ans déjà, et c'est un film que le public découvrira, j'espère, bientôt dans des salles à travers le monde. C'est un film formidable, émouvant, d'une intelligence absolue sur les rapports entre les parents, les enfants, ce que ça représente, le souvenir. Enfin, on n'est pas là pour parler que de ce film, mais on a bien entendu, je crois, dans l'extrait que vous avez passé, une certaine frustration de ce que c'était aujourd'hui d'être un créateur, un auteur, une réalisatrice, un réalisateur, puisque c'est un film co-réalisé, de ne pas pouvoir, et le mot qui a été utilisé souvent, c'était le partage, de ne pas pouvoir le partager. Alors, trouver une maison, j'essaye de répondre aussi à votre question, c'est aussi remettre cette œuvre, remettre son travail entre les mains de gens qui vont faire au mieux pour que ce film soit partagé. Je pense que le Festival de Berlin fait ce qu'il peut, et vous avez parlé de sa partition en 2 temps, pour essayer de maximiser ce partage malgré les conditions. C'est aussi notre travail à nous, exportateurs, de trouver les moyens. Et donc on montre le film aussi de notre côté, dans des projections privées, à nos acheteurs à travers le monde, en salle. Et j'insiste sur ce point-là, en salle. Là aussi, les retours que nous en avons quand on a envoyé les invitations, c'était touchant, parce qu'on avait des gens dont c'est le métier, hein, qui passent leur vie dans les salles de cinéma, qui ne sont pas allés au cinéma depuis si longtemps. Et on leur offre la possibilité de faire leur travail, puisqu'ils sont là pour acheter des films, mais aussi de voir un film, et un beau film, il se trouve, dans des salles de cinéma. Donc, trouver une maison, c'est ça, c'est que, et Johanna l'a dit, il faut continuer à travailler, est-ce qu'on continue à le faire ? On essaye de trouver des outils adaptés aux circonstances.
Et votre métier, donc, c'est de proposer, vous le disiez tout à l'heure, Nicolas Brigaud-Robert, c'est de proposer donc des films à des distributeurs internationaux. Quels sont les retours que vous avez pour l'instant ?
Sur ce film-là,
c'est-à-dire qu'on sait qu'en France, on sait qu'en France, c'est vrai que les distributeurs ont quand même beaucoup de films sur les étagères qui n'ont pas pu sortir, etc. À l'international, ça se profile comment ?
Alors, je vais partager un peu de l'optimisme de Johanna, ou peut-être moi aussi, je suis dans le déni. Moi, j'entends des choses qui me donnent espoir. J'entends des distributeurs dans certains pays qui commencent déjà à entrevoir la sortie du Covid. qui s'intéressent déjà à l'exploitation, aux films qu'ils vont sortir au moment de la reprise, avec un vrai débat aussi sur quel type de film les gens ont-ils envie de voir, ce qui est une question intéressante, je crois. Et puis, peut-être qu'on en parlera. Et puis, il y a toutes les autres formes, même si la salle est bien sûr, et Johanna l'a dit, le moment privilégié du partage, il y a toutes les autres formes d'exploitation qui ont continué et qui continuent et qui continueront post-Covid. Quand je dis des autres exploitations, vous me comprenez, je parle évidemment des services comme celui donc vous avez évoqué, services de VOD à travers le monde, services de SVOD, donc, etc.
Vous, Thomas Gastaldi, comment vous vous préparez pour cette Berlinale?
Quand Nicolas 2021. Parle des premiers retours et des expériences, quand on lance des premières invitations pour retrouver la salle, on a exactement, nous, les mêmes signaux, que ce soit en projection de presse, puisque la presse continue à avoir des films dans les salles, et dans des projections privées tests qu'on peut continuer à faire pour des films à sortir, dont on a envie de sentir déjà quelque chose qui pourrait nous amener à préciser un marketing, à travailler avec un réalisateur sur tel ou tel endroit. Et ces projections sont des moments, on le sent, très rares, et qui nous donnent des prémices d'un retour en salle. J'en suis absolument convaincu, je suis un optimiste absolument militant là-dessus, et nous on souhaite très vite faire écho du Club Shellac tel qu'il a été lancé au moment de cette fermeture, pour pouvoir avoir un écho avec des projections événementielles, avec une invitation faite à certains réalisateurs dont les films inédits en France ont été lancés au moment de la fenêtre SVOD, de l'abonnement VOD. Évidemment qu'on veut réunir tous ces moments pour au fin du fin retrouver la salle, cette expérience là. Il n'y a pas de meilleur endroit pour voir un film. On est tous, je pense, d'accord autour de la table.
Et c'est clair qu'en ce moment, il y a une émotion très particulière, hein, pouvoir voir, découvrir un film dans une salle de cinéma. Alors, je vous propose de partir quelques minutes à Bruxelles, où j'ai pu joindre ce matin le cinéaste congolais Diodo Amadi. Donc, en mai dernier, son film En route pour le milliard était sélectionné par le Festival de Cannes, une première pour le Congo. Sauf que le Festival de Cannes a été annulé. Donc, il nous raconte, Diodo Amadi, son année de cinéma.
Aujourd'hui, avec le recul, je dirais que je n'avais pas sur le coup réalisé en fait l'importance ou l'événement que c'était de se retrouver dans la sélection du Festival des Cannes. Ce qui m'avait traversé tout de suite, c'était d'abord le soulagement, parce que on était assez stressé, en fait, il faut le dire, avec l'équipe du film. On ne savait pas si on allait être pris. Jusqu'au dernier moment, on n'avait pas de nouvelles. Et quand on nous l'a annoncé, voilà, c'était un soulagement et on s'est laissé entraîner là-dedans. C'est seulement après, quand j'ai commencé à recevoir des appels des gens que je connaissais pas, mais d'autres, même de ma famille, de manière inhabituelle, qui m'appelaient, notamment ma mère, pour me féliciter, alors que je suis dans ce métier depuis plus de 10 ans. Je me demandais même si elle savait ce que j'étais en train de faire concrètement. Et là, qu'elle m'appelle, mon père, mes frères, et qu'il y ait une espèce de buzz sur les réseaux sociaux, mon nom partout et tout. Ouais, ça a changé un peu de tous mes autres films, de toute l'expérience que j'avais jusque-là, parce que tout d'un coup, j'avais l'impression que les gens s'intéressaient à ce que je faisais et voilà, comprenaient entre guillemets ce que j'étais en train de faire et qu'ils les prenaient. En fait, ils étaient maintenant devenus curieux. Et il faut dire aussi que c'est vrai que le film jusqu'ici il a été montré dans 2 ou 3 festivals au Congo, mais la curiosité que ça a suscité, même pour des gens qui l'ont pas vu, c'est notamment lié au label Cannes. Et depuis, voilà, je suis presque plus un inconnu au Congo grâce à ce label.
Très concrètement, Diodo Amadi, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Comment vous avez vécu cette année?
Oui, en tout cas, j'avais pas fait jusqu'ici un film qui a eu autant de retentissement, et c'est vraiment grâce à ces labels. Ce qui était effectivement particulier, c'était justement d'accompagner ces films derrière un ordinateur, parce que après, il y avait comme un effet boule de neige. Le film a été montré aux 4 coins du monde, mais chaque fois pour le présenter, voilà, j'étais dans mon salon devant un ordinateur et ça suffisait pour parler à un public virtuel, à des animateurs, ainsi de suite. Il a raflé quelques prix importants. Il a été même qualifié pour les Oscars. Voilà, c'est ça mon expérience Cannes, en fait, pour la première fois. C'était pas le tapis rouge, c'était pas la montée des marches. C'était juste cette reconnaissance, enfin, au pays, qui me reconnaît comme cinéaste.
Donc Diodo Amadi, qui parle de son expérience, donc accompagner un film derrière un ordinateur. En même temps, il est plutôt positif. Et je trouve que la question qu'il pose, en l'occurrence avec le label Cannes, c'est qu'est-ce qui crée la valeur aujourd'hui pour un film ? Est-ce que c'est un festival ? Est-ce que c'est la presse ? Thomas Gastaldi ?
Effectivement, on travaille des films qui ont un grand besoin d'accompagnement, que ce soit sur une fenêtre de festival à trouver, une stratégie linéaire qui, au fin, doit nous amener à la meilleure date possible pour le sortir en salle en France. Donc l'expérience de festival, la première sélection de festival, la première mondiale, sont des moments éminemment importants. Donc quand on entend Diodo Amadi, je suis un peu ému parce que j'ai aussi vu son film en salle avant la fermeture dans un festival et il m'a énormément ému. C'est vraiment un sublime film et j'espère qu'il sortira dans les meilleures conditions. Donc oui, on cherche le label, on cherche la sélection de festival et là on guette, très sincèrement, on guette les festivals physiques, les festivals qui vont revenir, qui vont redonner goût à l'expérience de spectateurs parce que le goût du virtuel, pour ces labels-là, ils ont la limite de s'arrêter à un moment où on doit se connecter à un jour pour voir via une screening room un film. Et effectivement, comme disait Nicolas, on est ou en cuisine ou le matin derrière un bureau, on sort d'une réunion Zoom et ou le soir, on à la fin de notre journée de travail, on va regarder un film. C'est évidemment pas la meilleure des conditions. Surtout pour nous, des films comme on a pu avoir Sharounaz Bartas, Crépuscule, labellisé Cannes en 2020, c'est pas du tout un film qu'on a envie de voir sur son écran, son petit écran.
Gilles Renoir, au-delà de la crise, au-delà de l'épidémie, est-ce qu'on est en train de vivre un changement de paradigme ? Je pense à votre livre hein, où vous parlez de ces 25 dernières années de cinéma français. Est-ce que ça a été une forme de parenthèse enchantée ?
Alors oui, effectivement, en fait, on s'en rendait pas compte, mais donc on a écrit ce livre sur 25 ans, donc les années 94-2018, pour faire un état des lieux, parce qu'en fait, on a des chiffres sur les résultats des films français à l'étranger depuis 25 ans, et en fait, on se retrouve maintenant avec un récit qui est en fait un récit historique, parce qu'on se retrouve à avoir une période qui s'est achevée en fait, et on sait très bien que on la retrouvera pas. Et cette période, en fait, c'était une période finalement. On pensait que le cinéma était en crise comme il a toujours été, et en fait le cinéma était en pleine croissance. Il y avait beaucoup plus de films, il y avait une explosion du nombre de salles, une explosion du nombre de productions. Le sujet, c'était vraiment est-ce qu'on produit trop de films, comment on va arriver à les sortir. Et en fait, on était dans une période un peu de surchauffe, mais surtout de bonne santé du cinéma. Je parle de la circulation des films dans le monde. Avec des nouveaux marchés qui s'ouvraient, des nouveaux cinéastes, des nouvelles cinématographies qui apparaissaient. Et donc, le paradigme nouveau, c'est effectivement les plateformes et le fait que celles-ci ont à la fois profité de la fermeture des salles. Alors, elles existaient déjà avant, elles étaient déjà... Et donc, elles ont à la fois profité de ça et en même temps, elles ont aussi fait en sorte que les films continuent de circuler. Et en même temps, sans que on oublie la salle. On a eu peur pendant un moment que les films passent directement sur les plateformes. Or, on voit aujourd'hui que finalement, ça va être un support supplémentaire, que va y avoir des films créés pour les plateformes, mais que la salle va rester là et que le cinéma, les auteurs, les réalisateurs, les comédiens évidemment, vont vivre avec ce nouveau support. Mais que ça ne va pas non plus tuer l'ancien monde. Moi, je suis optimiste aussi, comme Nicolas Brigaud-Robert, sur le fait que ça va redémarrer. Donc, on a à la fois un nouveau paradigme, parce qu'on a un nouvel espace, en fait, de diffusion. Et en même temps, ça va continuer aussi sous une forme traditionnelle qui fait que le cinéma est cinéma, c'est-à-dire qu'on le vit d'abord en salle.
Mais les plateformes, c'est intéressant parce que Nicolas Brigaud-Robert, est-ce qu'elles savent faire naître de nouveaux auteurs ? Parce qu'on a bien vu, par exemple, quand Netflix a acheté le film de Mati Diop à Cannes, hein, qui a eu le Grand Prix, c'était compliqué pour eux de la faire exister, c'est-à-dire de faire exister un auteur qui n'est pas encore, qui est un peu sous les radars, quoi, qui est connu des cinéphiles, mais pas au-delà.
C'est une question effectivement fondamentale de la question de comment est-ce qu'on lance un nouveau talent en l'absence des structures de l'ancien monde, comme le disait Gilles Renoir, qui, elles, ces structures, sont adaptées, ont appris à lancer des talents en les faisant reconnaître par leur père, en les faisant voir par la presse dans les meilleures conditions, en les faisant découvrir par le public dans des écrins, etc. Et est-ce que aujourd'hui les plateformes qui sont en fait une espèce de buffet où chacun doit choisir et autant qu'il le veut, ce qui est une bonne chose, mais doit choisir avec une idéalisation minimale et souvent confiée, en tout cas telle qu'elle est présentée, à l'intelligence artificielle et les algorithmes. Donc évidemment, on est bien loin de du travail de curateurs que sont l'ensemble de la chaîne professionnelle traditionnelle. Ça va du producteur à l'exportateur, on fait le festival, la presse, tout ça sont des gens qui s'investissent à essayer de trouver des nouveaux talents. Donc vous posez une question qui est certes importante, qui est liée également au fait que aujourd'hui, je crois, un des grands enjeux pour nous tous sur les plateformes, c'est leur transparence. C'est-à-dire que vous parlez de Mati Diop. Personne ne peut vraiment vous dire si Mati Diop a fait un succès sur Netflix ou pas. Personne n'a ces éléments-là. Personne ne peut communiquer, s'appuyer sur ces éléments-là pour dire, bah tiens, c'était une bonne chose qu'elle soit vue sur Netflix ou pas. On n'a aucune forme d'information qui est un élément, je crois, qui peut freiner, je le pense, qui peut freiner aussi une certaine forme de pénétration de ces nouvelles formes d'exploitation ou de commercialisation des films, parce que les talents, et en particulier les talents, ont besoin de cette visibilité. Ce n'est pas qu'une question économique, c'est qu'on a besoin de sa propre, de ce miroir-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça a plu? Est-ce que c'était bien? Et qui l'a vu? Et ne pas avoir ce retour-là, comme on peut l'avoir lorsque on passe sur les Champs-Élysées et qu'on voit à 14h qu'il y a la queue à son film, qui fait toujours plaisir et aux comédiens, et aux talents, et aux producteurs, à tout le monde. Eh bien, ce type de miroir, aujourd'hui, les plateformes ne le donnent pas. Et je pense qu'elles ont tout un pan de réflexion à avoir sur comment entretenir des relations avec les talents en leur donnant accès à ce type d'informations qui les concernent.
Et puis effectivement, c'est vrai que les plateformes, elles ont été honnies et décriées en France. Aujourd'hui, elles sont très sollicitées. On a beaucoup parlé de Pinocchio, de Matteo Garonne, qui a été vendu à Amazon. On a parlé aussi de Forte, de Katia Lefkowitz. Mais les plateformes, les grandes plateformes type Disney, type Amazon Prime, type Netflix, elles s'intéressent à un nombre très très réduit de films. C'est-à-dire que j'imagine que si à Cannes, par exemple, elles font un pont d'or à Céline Sciamma pour le portrait de la jeune fille en feu, ben c'est bien parce que vous, Nicolas Brigaud-Robert, il y a 10 ans, vous étiez à Berlin avec Tomboy et que vous l'avez vendu à 33 territoires en 10 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un énorme travail de reconnaissance fait avant.
Vous savez, évidemment, il y a ce phénomène aussi qu'elles viennent capitaliser, elles viennent capter une valeur qui a été créée avant elles, c'est certain. Mais en même temps, j'aimerais, pour prolonger l'optimisme de Gilles Renoir et celui de Thomas également, puisqu'on est tous les trois à être assez optimistes, je pense qu'il y a une chance pour nous. Je pense que ces nouveaux modes d'exploitation ne signent pas l'arrêt de mort du cinéma. Le cinéma n'a pas signé l'arrêt de mort du théâtre, la télévision non plus.
Tout pourra cohabiter.
Non seulement les choses pourront cohabiter, mais c'est aussi une chance pour nous, à la fois producteurs et spectateurs. Cette nouvelle forme de financement est aussi importante pour le secteur. Et on voit, et on peut aussi parler de, lorsqu'on a les chiffres, parce qu'on les a parfois, lorsqu'on a les chiffres, on peut aussi se constater qu'on a des cinéastes qui sont vus dans des pays où ils ne seraient pas vus s'il n'y avait pas des plateformes et qui trouvent un public qu'ils n'auraient pas trouvé.
Vous pensez à qui, par exemple ?
Bah écoutez, un des premiers films les plus emblématiques, parce que le débat sur la question du rapport entre les plateformes et les festivals a eu lieu à ce moment-là, était le film Divine, qui avait eu la Caméra d'Or. Divine a été vendu à Netflix, c'était une société de notre groupe qui s'en occupait, et je peux vous dire qu'au moment où Netflix s'est penché sur Divine, le nombre de distributeurs étrangers qui étaient intéressés par le film se comptait sur les doigts d'une main. Si bien que la décision est de la réalisatrice et du producteur d'accepter d'être diffusé sur Netflix était objectivement pour le film à ce moment-là une décision qui qui allait maximiser le nombre de spectateurs de ce film. C'est pas toujours le cas. Je sais que Céline Sciamma, par exemple, a décidé de ne pas le faire sur son dernier film. Elle a sans doute aussi eu raison.
Elle n'a pas vendu le portrait de la jeune fille en feu à Netflix.
Et sa productrice décide de ne pas le vendre à Netflix. La situation était complètement différente. Vous l'avez rappelé, Céline Sciamma était une réalisatrice déjà reconnue. Le film était en compétition officielle à Cannes. Le nombre d'acheteurs qui s'intéressaient au film, et même si c'était pas moi qui m'en occupais directement, j'étais à ce festival de Cannes. Le buzz était déjà énorme. La Croisette ne parlait que de ça. Le vendre à Netflix à ce moment-là, peut-être, et enfin c'est pas peut-être, j'en suis convaincu, aurait été une mauvaise idée. Et donc ils ont fait également le bon choix d'aller dans le métier, et c'est ce que rappelait Gilles, l'ancien monde, ce qu'on appelle l'ancien monde, il faudra arrêter de l'appeler comme ça malgré tout dès qu'on sera sorti du Covid, c'est-à-dire sortir le film en salle par territoire, et ça a été un grand succès dans des pays aussi inattendus que la Corée et d'un pays très difficile pour les films en langue française comme les États-Unis.
Justement, est-ce que vous parliez de territoire, est-ce que la notion de territoire, elle est en train de bouger un peu avec les plateformes de streaming ?
Évidemment, notre métier à tous, et comme celui de Thomas, on a nos sociétés sont inscrites malgré tout dans l'idée, soit parce qu'on exploite les films dans une langue et dans un espace géographique, soit pour ce qui est de l'exportation, on va chercher à travers le monde par pays, nous commercialisons par pays les films. Évidemment, quand vous avez un acteur pour qui les frontières n'existent pas, ça bouleverse un peu notre métier. En même temps, c'est ce que je disais, c'est une chance pour nous, puisque il y a des films qui, Gilles Renoir pourra le confirmer, il y a des films qui ne s'exportent pas, y compris des films de réalisateurs qui ont du succès localement dans leur propre pays, mais qui ne traversent pas les frontières. Et c'est là où, tout d'un coup, avoir accès à une plateforme mondiale, eh bien, c'est un nouvel espace auquel nous n'avions pas accès. Et je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes qui, aujourd'hui, ne seraient pas vus dans le monde de la même manière s'ils n'avaient pas accès à ces plateformes.
Vous pensez que ça peut justement changer le statut de certains acteurs ? Parce que Netflix, par exemple, va chercher pour s'implanter en France à faire une série avec un acteur français ou une actrice française, va chercher à s'implanter en Inde, ce sera pareil. Est-ce que vous pensez qu'on arrive à quelque chose de plus global ?
Est-ce que l'utopie de la culture monde est arrivée ? Je ne pense pas. Ils font d'ailleurs, c'est très difficile à lire, enfin les autres interlocuteurs le confirmeront. C'est très compliqué de lire les stratégies des plateformes. Elles changent elles-mêmes, je crois, beaucoup de leur tactique, puisque c'est plus la tactique que la stratégie. Parfois, elles sont, il nous faut des sujets universels. Parfois, il nous faut des sujets, au contraire, locaux qui vont marcher dans le pays où la langue de production. Donc, je pense qu'il y a une valse hésitation. On n'a pas encore stabilisé ce qui va être la ligne éditoriale des uns ou des autres.
Mais on n'a pas encore décrypté la tactique de l'algorithme.
Je crois qu'en plus, elles sont concurrentes entre elles, toutes ces plateformes. On parle des plus anciennes, mais il y en a bien d'autres qui arrivent, et plus des plateformes indépendantes, comme celle de Thomas. Donc, on est vraiment dans une période assez excitante. Voilà. Moi, je la trouve très excitante, cette période, au-delà du Covid. Une fois que nous serons sortis, que nous aurons tourné cette page, je pense qu'on est dans une situation où, non seulement les gens vont retourner en salle, mais en plus, on a la chance d'avoir des nouveaux acteurs qui sont plus uniquement des acteurs hollywoodo-centrés, mais qui sont bien décentrés et qui peuvent s'intéresser à beaucoup d'autres choses pour l'instant, en tout cas.
Alors, on aura sûrement l'occasion de prononcer le mot passeport vaccinal tout à l'heure, puisqu'on parlera du Festival de Cannes à venir. Mais pour l'instant, on fait une pause musicale avec la BO d'une série formidable qu'on peut voir, tiens, justement, sur une plateforme Amazon Prime, et puis depuis cette semaine aussi sur Salto. Ça s'appelle Small Axe. C'est une série, une mini-série de Steve McQueen, une plongée dans la communauté afro-caribéenne de Londres dans les années 80, Sister Sledge.
One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame
Madonnas and a face that would make any man proud. Oh, what wow! He's the greatest dancer. Oh, what wow! What I say. Oh, what wow! He's the greatest dancer. Oh, what wow! The champion of dance, his moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit, as a man he's complete. My creme de la creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Halston, Gucci, Fiorucci, he looks like a stiff. That man is dressed to kill. Oh, what the wow! He's the greatest dancer. Oh, what the wow! I've ever seen. Oh, what the wow! He's the greatest dancer. Oh, what the wow! That I've ever seen.
Vous êtes bien sur RFI dans tous les cinémas du monde avec nos trois invités, Gilles Renoir, Thomas Gastaldi et Nicolas Brigaud-Robert. Alors, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose sur les plateformes, Thomas Gastaldi, qui, disiez-vous, sont en train de compléter leur offre.
C'est très court pour compléter ce que disait Nicolas, mais on voit même dans le recrutement, dans les équipes de ces grandes nouvelles structures,
la cinéphilie. Warner, Disney, Amazon, Netflix. Oui.
La cinéphilie arrive aussi. Du côté des nouvelles acquisitions et donc on sent que dans leurs équipes ils commencent à nous repérer, à repérer certains de nos films et à en parler à un niveau très intéressant. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faudra changer de leur côté à un moment donné, c'est la place des auteurs sur les vignettes de présentation, sur des corners, nos films ne se suffisent pas à des simples vignettes avec un play à l'intérieur à cliquer. Le nom d'un auteur, puisque c'est le cinéma d'un auteur ou de plusieurs auteurs qu'on défend, doit y trouver sa place et actuellement, il n'y trouve pas sa place. Donc, ils sont très certainement en train d'y réfléchir et ils vont trouver très certainement un algorithme pour faire ça. Mais
vous voulez dire un algorithme, enfin, on est bien d'accord, quelque chose qui permettrait d'éditorialiser un peu leur offre.
Nous, on fait ça à notre manière. Donc, on l'éditorialise, on écrit des textes. Au Club Shellac, on écrit des textes originaux sur chaque programme, sur chaque film. Donc, sans en arriver là, il faudra très certainement qu'ils bouleversent un petit peu leur présentation s'ils veulent trouver et trouver la meilleure des manières d'accompagner ce cinéma-là. Parce que, comme toutes les niches, ils iront à un moment donné sur ces niches-là.
Ils en auront besoin, c'est ça ?
Ils en auront besoin si, parce qu'ils commencent aussi à comprendre qu'ils défendent un art et il faut sortir du contenu et arriver au film.
Oui, et puis bientôt la directive SMA de la Commission européenne sera adoptée en France et donc elles seront obligées de verser un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires encore à délimiter dans la production de films français. Alors on va terminer cette émission à tout seigneur, tout honneur avec le Festival de Cannes. On va écouter Charles Tesson, c'est le directeur artistique, le délégué général de la Semaine de la Critique cannoise. Je le disais tout à l'heure, cette année le festival a été repoussé de fin mai à début juillet. Et donc Charles Tesson nous raconte en fait son quotidien de programmateur.
On voit beaucoup de films. Il y avait déjà des films qu'on avait vus en 2020 qui ont pris le temps de finir leur post-production et qu'on voit maintenant. Mais comme il y a eu aussi, ça dépend des pays, là, c'est vraiment selon les pays, il y a eu des fenêtres de réouverture de tournage en France en été dernier qui, eux, avec le report, vont pouvoir se finir dans des temps par rapport à l'annonce. Si on est sur du juillet, c'est début juin qu'on va annoncer les sélections vers le 10 ou le 5, etc. Donc on est sur ce rythme-là. Donc nous, on voit toujours des films. Ça va être un peu étalé plus et ça va se concentrer sur vraiment avril-mai où ça va être la folie, si je puis dire. Voilà. En part française, ça va être monstrueux. On a énormément de films. Déjà, qui était là l'an dernier, qui arrive là. Donc là, je pense qu'il y aura un vrai embouteillage par rapport au cinéma français. Mais il y a aussi une très belle offre de qualité là-dessus. Voilà. Et étrangers, on va voir. On a pas mal de films qu'on doit recevoir aussi. Enfin, je parle des catégories de la semaine, c'est-à-dire les premiers, deuxièmes.
Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y aura en gros beaucoup d'appelés et peu d'élus. Oui, malheureusement.
Mais je pense qu'il y a de la. On va voir par rapport à l'étranger, parce que c'est quand même très compliqué. Il y a beaucoup de tournages qui ont été reportés. la question de la Covid pose des problèmes de coproduction. Si vous devez finir le montage son en France, mais le montage image au Danemark et les déplacements et tout, alors ça, on fait de la post-production en ligne avec le cinéaste qui est en Indonésie. C'est très, très compliqué. Ça ralentit le processus, donc c'est compliqué.
Très compliqué.
Mais alors, c'est important qu'un ait lieu, qu'il ait lieu, comme on dit, en présentiel.
Bien sûr.
Et parce que je crois que les festivals, c'est des lieux où, pas seulement de rencontres et de fêtes, mais les films, comme la semaine, on ne les connaît pas à l'avance. Les gens les voient, il y a le bouche-oreille, il se passe quelque chose, un frémissement par rapport au public, par rapport à la profession, par rapport à la critique et tout, et les choses s'enflamment. Et cette dynamique est une dynamique qui existe que quand un festival existe dans des conditions, je dirais, humaines. Quoi. Le « en ligne », c'est pas possible.
Le en ligne, c'est la mort.
C'est un autre débat. Après, nous, là-dessus, c'est l'officiel qui donnera le là, si je puis dire. Et nous, on suivra.
On n'imaginait peut-être pas à quel point, il y a un an, Thomas Gastaldi, à quel point le Festival de Cannes, en fait, réglait le calendrier du cinéma mondial.
Si. Ah bah oui, c'est le repère incontournable de la cinéphilie mondiale. Il continue à l'être et là, en pressentant, on ne bruisse dans les couloirs que des nouvelles hypothèses sur le Cannes 2021. On en parle tout le temps, donc c'est encore le cas, ce sera encore le cas. Et comme le dit Charles Tesson, le là de l'officiel va déclencher pour nous toute une stratégie de l'année à venir. Comme on pressentait l'année dernière que un Cannes qui n'aurait pas lieu dans les conditions rêvées allait bouleverser notre calendrier de sortie. Donc effectivement qu'on guette les signaux d'abord gouvernementaux qui ensuite déclencheront certainement des annonces de présentiel, comme dit Charles Tesson. Mais en tout cas, évidemment que le calendrier est fixé par rapport à Cannes, pour notre cinéma.
Pour vous, Nicolas Brigaud-Robert, il vaut mieux une demi-mesure et un festival en juillet, ou il vaut mieux attendre et avoir un vrai festival sans nécessairement respecter la distanciation, les salles à moitié pleines?
Non, moi je pense qu'il faut avoir un festival qui prend toute sa dimension comme il l'avait avant, et je pense qu'un des événements de demi-mesure auront des demi-effets, et en tout cas en ce qui nous concerne, Playtime, je crois que nous continuerons à tenir comme on peut avec ce système virtuel dont on a évoqué au début de l'émission, mais on préférerait évidemment lancer les nouveaux films, et on a des grands cinéastes qui attendent, hein, de François Ozon à Jacques Audiard et beaucoup d'autres qui nous attendent pour un grand festival, pas pour un festival en demi-mesure, non.
Vous, Gilles Renoir?
Là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Nicolas. Avec l'expérience qu'on vient d'avoir sur cette année, évidemment, tout le monde préfère avoir un festival qui se tient dans sa pleine mesure. Pourtant, on voit que le calendrier des festivals, le rythme, où avec chacun à sa place, est vraiment nécessaire pour que les films, quand même, puissent être mis en avant, qu'on parle de cinéma, qu'on puisse les voir à un moment ou à un autre, qu'on ait des rendez-vous, qu'on se retrouve même de façon un peu dégradée, même si on n'est pas en face les uns des autres. Et donc, Cannes, effectivement, notamment pour le cinéma français, vraiment un jalon essentiel de l'année. C'est là où en fait le cinéma mondial se retrouve aussi. Donc on aimerait qu'il ait lieu dans comme d'habitude. Mais là, je ne suis pas d'accord avec Nicolas. Je pense que il faut quand même qu'il y ait un signe qui soit donné pour que le cinéma puisse exister aux yeux du public, aux yeux des journalistes. Donc malheureusement, même s'il ne peut pas avoir lieu comme d'habitude, je pense que c'est important que voilà, y ait des sélections, qu'on parle des films, que des réalisateurs soient mis sur le devant de la scène et qu'on continue à parler de cinéma.
Merci à tous les trois, Gilles Renoir, Nicolas Brigaud-Robert, Thomas Gastaldi. Donc on prend date, hein, avant Cannes, pour le Festival de Berlin du 1er au 5 mars. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré. À la réalisation, Jérémy Bessé. Rendez-vous la semaine prochaine. Nos invités seront Julie Gaillet et Véronique Lebris pour leur livre « 100 grands films de réalisatrices ». Et d'ici là, bonne semaine à tous.
RFI, la sélection du mois.